Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où il y a du suspense que quand il n'y a pas, c'est fantastique. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui parce qu'on a une bonne semaine à débriefer, les Ardennaises donc, et il s'est passé beaucoup de choses. Pidcock vainqueur de l'Amstel, William sur la flèche, Poggi comme d'habitude sur Liège, mais aussi la semaine de nos Français et de nos Belges, parce que nous avons James aujourd'hui, en n'oublions pas les féminines, avec une ex-Dayworks qui a fait chou blanc, c'est assez rare. Il y aura aussi un petit peu de tour de Romandie sur la fin, je n'en dis pas plus, et j'introduis tout de suite notre Belge national, donc, qui a été sur quelques courses, quelques Ardennaises, et qui est avec nous pour débriefer cette belle semaine. Salut James.
Bonjour à tous, ravi d'être avec vous.
Ah bah ça fait plaisir aussi. On a retrouvé comme d'habitude le son métallique de James, c'est presque sa marque de fabrique et ça fait plaisir. Et on a retrouvé aussi, on l'a croisé entre deux rayons de supermarché, il y a Rémi qui était dans le coin, on l'a dit bah allez viens, vas-y. Bonjour Rémi, comment vas-tu?
Bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'est pas souvent, je suis très content d'être là avec vous à nouveau.
C'est vrai, tu vois à peu près ce que c'est le vélo, hein, ou est-ce qu'il faut qu'on te réexplique?
Ouais, moi j'ai regardé Paris-Roubaix la dernière fois, je crois que Georgine Capi a fait top 10.
Georgine Capi, et garde cet esprit-là parce que dans le quiz de fin, parce que je vous ai préparé, il y aura un vrai quiz, il y aura peut-être besoin de faire sortir des connaissances anciennes. Pas besoin d'avoir une bonne mémoire pour se rappeler ce qui a été réalisé la semaine dernière, donc avec les Ardennaises, c'est parti. Maintenant, on va assurer le tempo.
T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant. Hein.
Donc, trois courses, trois vainqueurs différents, mais un point commun. Et James, tu vas pouvoir nous le dire, le froid, toi qui étais un petit peu sur place, je pense que ça a beaucoup joué pendant cette semaine parce que des conditions comme ça, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu à ce moment-là, les bien sûr.
Ah, bah, c'est surtout ouais, la flèche. Où on se dit généralement, entre copains, ça va être un moment de convivialité. Après le travail, on peut boire quelques bières. Ben là, cette année, c'est un peu comme SDWorks, c'est un peu chou blanc. J'ai jamais connu un temps pareil en 11 ans de Flèche Wallonne. Et donc, c'est une édition qui rappelle celle de 1999. Vous savez comment j'ai bien bossé mon français.
Ah oui, c'est vrai. Pas du 99.
Donc voilà, donc une édition effectivement historique à tout point de vue, scénario dantesque et finalement une course très agréable pour le spectateur neutre, bien sûr.
C'est vrai, parce qu'on a eu quelqu'un de l'équipe qui a été sur place. Alors, il nous en parle depuis des jours. Hein. Il a eu un peu de pluie, un peu de froid. Il a dit que ce n'est pas les Ardennaises, c'est les Alaskaïaises ou un truc comme ça. Je ne sais plus ce qu'il a sorti.
Alaskaïaises, oui.
Ouais, on a
je crois qu'il a perdu quelques orteils et quelques doigts aussi.
Ouais. Je l'ai croisé, il n'avait pas l'air d'apprécier
Ah bah, il aime pas se lever et il aime pas le froid. Donc à partir de là, il aime pas grand-chose.
Oui, mais il aime pas quand il fait trop chaud non plus. Hein.
Donc du coup, il aime pas grand-chose. De toute façon, Jérémy donc qui était là-bas pour faire des petits tournages. Du coup, on le retrouvera très vite. Mais en attendant, on va parler de ces Ardennaises donc un petit peu frigorifiques. On parlait de cette flèche wallonne parce que c'est ce qui ressort le plus hein, par rapport à cette météo, Rémi. Avec la victoire de Stephen Williams. Bon, est-ce que je sais pas si tu as pu en regarder la majorité de la course, mais est-ce que tu aurais sorti au bout d'un moment Stephen Williams de ton chapeau au moment où on aborde le final et la dernière ascension du mur de vie? Est-ce que c'est lui que tu aurais vu lever les bras en haut de cette dernière colline?
Ben, non, pour moi, déjà en amont déjà de cette dernière ascension, moi je voyais. Je voyais Blin. Qui est devant pendant une bonne partie de la.
C'est Craig Anderson.
Craig Anderson, voilà, merci. Pour moi, Craig Anderson, il pouvait vraiment aller au bout. Donc déjà, pour moi, c'était un peu plié cette histoire. Mais sur la fin, c'était tellement ouvert que j'arrivais pas à sortir le moindre. Pour moi, tout le monde était capable de la gagner. Et du coup, Stephen Williams, c'est vraiment pas le premier qui était venu, même s'il avait fait une belle sortie un ou deux tours auparavant. Mais par contre, quelle attaque, quoi. Quelle attaque. Vraiment, le mec, il vient de nulle part pour moi, mais cette victoire, elle est tellement logique vu la puissance qu'il a mis dans cette dernière ascension et même dans les précédentes que bah, c'est une surprise sans en être une au final, sur la journée en tout cas. Mais je ne l'ai clairement pas vu venir. Mec d'Israël comme ça, là, certainement pas.
Ouais, en plus, avec un temps un peu britannique, ils ont l'habitude quand il pleut et il fait froid là-bas. James, tu l'as vu en plus, Williams, après, derrière, est-ce que tu l'as vu au moment de la flèche? Il était comment? Parce que je suppose qu'une victoire comme celle-là, ça marque. On a eu quelques surprises, des coureurs un peu moins renommés qui ont remporté cette flèche, mais là, vraiment, on a atteint un paroxysme incroyable.
Bah, j'étais à moitié surpris. Effectivement, c'est pas le premier nom auquel on pense, mais après les multiples abandons, j'étais plus du tout surpris, parce que lors de l'avant-dernier passage, c'est déjà lui qui met le feu aux poudres. Donc, en fait, dans l'avant-dernier passage, il y a un groupe de 5 qui sort, et finalement, les 5 qui sont sortis sont quasiment dans le même ordre dans le dernier passage. Donc, c'était déjà les plus forts de la course. Moi, je pensais tout bêtement, bon, bah, ils vont certainement payer l'addition, la note dans la dernière ascension, mais finalement pas du tout. Donc c'était tout simplement le plus fort. C'est une période qu'il avait visée pour être en forme après son succès au Tour de l'Under. On avait déjà vu au Tour de l'Under qu'il était capable d'avoir ce petit démarrage fulgurant. Mais bon, le mur de huit, c'est quand même quelque chose d'autre. C'est un autre niveau, une autre concurrence normalement, même si là, c'était plus tout à fait le cas, mais ouais, chapeau à lui, quoi.
Et qu'est-ce
et
que
il semblait même pas cramé à la fin de la course, c'est ça qui était.
Non, il y a vraiment une impression de facilité sur cette montée. Il est vraiment solide. Ce qui est surprenant quand même, c'est que quand tu regardes son meilleur classement sur la flèche avant ça, c'est 99e.
Ah, donc, bah, c'est dans le top 100.
C'est vraiment autre chose, quoi.
C'est pas mal, c'est dans le top 100.
Et, c'est un top 100, ouais, c'est vrai.
C'est pas mal. Et puis, juste derrière, d'ailleurs, les observateurs ont dit, donc on a eu un petit Français, Kevin Vauclin, on viendra avec les Belges un tout petit peu plus tard, James. On a eu Kevin Vauclin qui termine deuxième. Beaucoup ont dit, oh, il a trop tardé, il s'est fait enfermer. Il y a eu aussi un problème avec les doigts gelés, il n'a pas pu passer les vitesses correctement, il a un peu ripé. Ben, bref, j'ai pas l'impression que Kevin Vauclin aurait pu rattraper Stephen Williams, qui avait quand même l'air encore assez bien et qui a géré sa montée jusqu'en haut. Je sais pas ce que tu en as pensé en regardant l'ascension finale.
Je suis plus mitigé sur ce point-là. Je pense que si ça continue, Vauclin, il va le chercher.
Ouais, mais bon, il faut gérer. Attends, on met pas les lignes après exprès, hein. Donc, moi, je me suis dit quand même, Williams, il avait l'air plutôt pas mal. Il fait une belle attaque, il fait la différence. Voilà, j'ai eu.
Mais
après.
Ah oui, mais dans les pourcentages vraiment très raides, là, il fait vraiment la différence. Il y a personne qui aurait su le suivre, mais dans le replat vers la fin, il a l'air de buter un peu.
Hein.
Bute un peu. Ouais, bah il a attaqué juste au bon moment, hein. C'est juste parfait. On demande pas au gars de gagner avec 100 mètres d'avance non plus, hein. Le but c'est de passer la ligne en premier, donc il a bien géré son effort, même si à la fin il butait un petit peu. Bah les autres sont revenus trop tard, tant pis pour eux.
Et qu'est-ce que tu as pensé de Van Gils alors? Parce que moi, je l'ai vu gagner hein, avant. Je me suis dit que c'était l'homme le plus en forme devant, celui qui avait un peu plus, on va dire, de bons résultats depuis le début de l'année. On l'a vu sur les stradés, etc. Et tout. Moi, vraiment, je me suis dit, c'est pour Van Gils, un peu déçu ou pas de sa seulement troisième position. C'est bien, hein, mais c'est vrai que quand on voyait ce qui restait.
En fait, voilà, c'est surtout ça. C'est, vu ce qui restait, on peut être potentiellement un chouïa déçu. Après, néanmoins, podium, sur son tableau de marche, si on essaye de regarder un peu son évolution, en fait, c'est déjà super. On peut avoir un sentiment de trop peu, vu ce qui s'est passé. À Liège, bah, quatrième, si Van Der Poel ne revient pas sur ce groupe, on peut se dire que Van Gils avait peut-être la possibilité aussi d'aller faire un autre podium. Donc en finale, 3 et 4 sur les deux ardennaises, c'est quand même pas mal du tout, quoi.
Ouais, avec donc la présence aussi de Français, on va enchaîner avec l'Amstel, mais voilà, il y avait quand même 5 Français dans le top 10, avec Benoît Cosnefroy 4e, Romain Grégoire, Dorian Godon et Guillaume Martin, donc Champoussin top 11, juste derrière. Juste pour terminer, hein, j'ai eu, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, hein, on a beaucoup misé sur Madouas dans cette course-là, je pense qu'on s'est un peu trompé de leader ici sur la flèche. Mais sur l'Amstel, juste avant, il avait été aussi là. Hein, c'est pareil, c'était la même stratégie. On va peut-être enchaîner d'ailleurs par rapport à ça, Rémi, parce que c'est pareil. Donc on a sur la Flèche Wallonne, on a roulé. J'ai l'impression pour Madouas, on a l'impression encore une fois, alors qu'il y avait un Grégoire qui avait l'air en forme, qui aurait peut-être un peu moins pu travailler pour lui. C'est pareil sur l'Amstel où Quentin Paché a beaucoup, beaucoup travaillé pour Madouas et finalement, on avait l'impression qu'il était presque plus fort. Est-ce qu'on n'a pas misé sur le mauvais cheval un petit peu lors de ce début d'Ardennaise par rapport au fait de, bah même toutes les Ardennaises, hein, d'avoir mis Madouas en avant tout le temps alors qu'il y avait à chaque fois une carte un peu meilleure dans les trois courses?
Si, manifestement, on a joué le mauvais cheval. Alors Madouas fait quand même meilleur des Groupama sur l'Amstel puisqu'il fait 6.
Ouais, lancé par Paché.
Et c'est vrai que Quentin Paché fait 8, avant-dernier donc du groupe qui se joue la victoire, derrière Pidcock hein, quand même, mais après avoir bossé énormément, donc oui, peut-être. Après, sur le papier, l'Amstel Gold Race, elle correspond beaucoup plus à Valentin Madouas qu'à Quentin Paché.
Ça, c'est vrai.
C'est logique d'avoir Quentin Paché qui bosse pour le champion de France, qui plus est. Après, c'est vrai que le tout, c'est que tu as toujours une stratégie en avant-course. Le tout, c'est de savoir s'adapter en conséquence. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à sortir d'un schéma, de ce schéma. C'est sûr que si tu sens que Quentin Paché, il a les jambes, peut-être qu'il aurait pu tenter quelque chose. Peut-être essayer de partir à l'avant, essayer de suivre un Pidcock. Bon, faut le faire, hein, évidemment. C'est facile à dire, mais... On s'est peut-être un peu trompé sur la flèche. C'était tellement le bordel que j'ai envie de dire qu'il n'y avait plus de tactique qui rentrait en ligne de compte. Là, c'était ceux qui peuvent tenir le coup vont au bout et advienne que pourra. Donc sur l'Amstel, il n'y a pas grand-chose à dire. Et bon, sur H. Bastogne, de toute façon, il n'y a rien à dire de plus. Il y avait un mutant et ça suffisait pour faire la cour. Ouais, il y a peut-être eu une erreur d'adaptation.
Et puis il y a Godu qui crève après la redoute, il me semble. Hein, donc,
Et Grégoire qui est dans le groupe devant aussi. Ça fait partie on fera les déceptions, satisfactions des plus et moins en fait dans FDJ parce qu'ils ont toujours été présents dans les premières positions avec plusieurs cartes. Mais j'ai l'impression qu'il y avait moyen de faire un tout petit peu mieux. Mais d'abord, question, mon cher James. Elle est pour toi, pour toute la Belgique. Tom Pidcock, c'est son premier ou son deuxième Amstel? Je sais plus compter. Ah, parce que là, franchement, il y a un problème.
Il y a eu des débats.
Il y a eu de gros débats. Même lui, d'ailleurs, même lui, en conférence de presse derrière, il en a parlé. Donc, ça veut dire que ça fait toujours polémique. Est-ce que ça a alimenté les rumeurs dans les couloirs ou pas quand tu étais là-bas?
Non, pas plus que ça.
Non.
Non, c'est l'histoire ancienne. Tu peux faire la blague. Tu fais une question en conférence de presse et voilà. C'est terminé. Ce qui compte, c'était là, au moins, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. C'est pour lui. Ça remet un peu les pendules à l'heure. Et voilà, son histoire avec l'Amstel, elle est bouclée. Il l'a enfin gagné. Et voilà, quoi. Fin d'histoire.
Bon, fin de l'histoire, on passera sur l'Amstel et la Flèche parce qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à Liège-Bastogne-Liège. Donc, fin de l'histoire aussi très vite hein, pour les autres concurrents face à Pogacar puisque dès la redoute, Poggi a attaqué, Poggi s'est envolé. James, franchement, j'ai envie de te dire, la course est terminée ici. Malheureusement, on n'a pas eu un Remco, par exemple, qui était là. On n'a pas eu d'autres fantastiques qui étaient au niveau. Mathieu Van Der Poel, c'était un petit peu dur. Il était tout seul. C'était trop dur de faire quoi que ce soit face à Pogacar qui a rythmé comme il voulait la course. Il est parti et on s'est occupé d'autre chose. Quoi.
Le tour du... Enfin, le Liège-Bastogne-Liège, j'ai déjà joué depuis la chute au Pays Basque. Hein.
Ouais.
Il y avait... Ça... J'avais pas de doute au moment où j'ai vu... ces victimes malheureuses, je dis bon bah il y en a un qui va se régaler à Liège, c'est Poggi, il a plus d'adversaire en face de lui et ça s'est vu et collectivement il se fait emmener vraiment parfaitement, on a un Novak qui affiche un niveau ce jour-là exceptionnel, il n'y a pas grand chose à dire, en plus il est pas loin du record de l'ascension, ça se joue à une seconde près avec un autre espoir belge. 4 minutes 01 pour l'ascension la plus rapide de la redoute. Voilà quoi, que dire de plus quoi.
Ouais, c'était compliqué de faire quelque chose. Moi, j'ai quand même, quand j'ai vu son attaque, je me suis dit, c'est dommage de pas avoir Remco Evenepoel qui aurait pu être. J'avais l'impression qu'il aurait pu suivre. T'as les Pogacar. C'est l'impression aussi que t'as eu, James, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh.
Oui, parce qu'en fait, si on regarde les temps de Remco. Il fait 10 secondes de moins lors de l'édition sous la pluie. Donc on peut imaginer vraiment qu'il aurait été en mesure de le suivre dans des conditions plus sèches, ce qui était le cas. Hein. Je pense qu'il y aurait eu match entre les deux, clairement, dans la redoute au moins.
Surtout que Remco a attaqué un peu plus haut à chaque fois. Là, Pogacar a lissé son effort un peu plus tôt. Tu as eu cette impression ou pas, Rémi, en voyant tout ça?
Oui, moi aussi j'ai eu l'impression que qu'un Pogacar comme ça aurait pu être suivi par Remco. Maintenant, j'ai du mal à me, enfin je me suis pas posé la question avant que là que tu me la poses parce que quand tu vois son démarrage, tu vois les autres en fait et visuellement c'est assez indécent. Donc on le sait comme l'a dit James, hein, depuis la chute de Remco, tu sais qu'à Liège il va y avoir un gros favori, genre d'outsider avec Mathieu, mais sans que tu saches ce qu'il serait capable de faire sur ce parcours.
Ouais. C'était faux outsider, au final.
Oui, oh. c'était plus une pancarte qu'autre chose parce que c'est Mathieu Van Der Poel.
C'est histoire de vendre aussi la course.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait.
Exactement. Mais ouais. T'avais plus que ça, en fait. C'est ça. Avant la course, on disait, est-ce que Mathieu Van Der Poel peut empêcher Pogacar de gagner? La réponse était non, on le savait, mais bon. On est journaliste, hein, on aime bien vendre des histoires et mentir aux gens. Évidemment.
Et puis on a quand même aussi cette parcelle de doute. On ne sait jamais avec Van Der Poel. C'est quand même un phénomène. Donc on se dit, sait-on jamais?
Ouais, sur une belle course, mais il a jamais pesé d'ailleurs. Hein. On l'a vu un peu en retrait. Il a juste fait un effort pour rentrer sur le groupe qui lui permet d'ailleurs de finir troisième, ce qui est énorme pour lui. Hein. On a l'impression que c'est une déception de le voir troisième, mais bon, voilà, avec la course qu'il a eue, finir à cette position, c'est plutôt magnifique. Mais et d'ailleurs après en zone mixte, il racontait que pour essayer de passer un petit peu mieux, il fallait qu'il perde du poids, mais c'était pas forcément son objectif parce qu'il avait envie de continuer à briller là où il est le plus fort. James, enfin je sais pas si t'es pas d'accord avec lui, mais c'est trop difficile un Liège pour lui en fait. On a l'impression que c'est trop difficile.
Oui. Pour l'instant, oui, c'est trop difficile. S'il veut pas perdre de poids, ce sera trop difficile à chaque fois parce que Liège-Bastogne-Liège, c'est 4400 mètres de dénivelé. Donc aussi Mathieu Van Der Poel soit-il, face à Poggi ou à Remco, il aura toujours cet handicap. Mais si on a une édition un jour avec Van Der Poel au départ sans ces deux-là, attention hein.
Bah et avec un Wout Van Aert, on l'espère à ce moment-là, histoire de revenir un petit peu.
Ça serait génial.
Ah ouais, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà pour Pogacar, on va pas... en faire des caisses, parce que pour la course, au niveau du scénario, ça a été plutôt, plutôt calme. Donc Pogacar, sixième monument à 25 piges, donc on n'a plus vu ça depuis, depuis un certain Eddy Merckx, donc ça, ça classe un petit peu le talent de Tadej Pogacar, qui avait déjà remporté la course précédemment. Donc voilà donc pour Poggi, la belle troisième place de Mathieu Van Der Poel, qui conclut sa, sa magnifique campagne de classique, et avec le doublé Tour des Flandres, et donc Paris-Roubaix, même à Milan-Sanremo, il était là, donc vraiment il a été jusqu'au bout de lui-même. Et celui qui a été aussi jusqu'au bout de lui-même, Cocorico, Rémi, c'est Romain Bardet qui a été chercher un nouveau podium avec une deuxième place. Et alors, on parle, désolé James, hein, au nom des Français bleu, blanc, rouge, pour nous c'était presque comme une victoire de voir Romain Bardet qui arrive à décrocher une deuxième place. Rémi, tu, je ne sais pas quelle émotion tu as eu après derrière, mais moi je l'ai vu, je dis franchement ça fait plaisir, parce que s'il y a un coureur, il y a un coureur qui mérite, il y en a d'autres qui méritent, mais lui particulièrement, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir un mec qui ne lâche rien aller récupérer ses accessis comme ça.
C'était formidable. Ah. J'ai rêvé comme s'il l'avait gagné. J'ai vibré sur le final comme s'il avait gagné la course, parce que de toute façon devant il y avait un extraterrestre, donc ça servait à rien. Et déjà de le voir une première fois dans la route Benilly à l'attaque, je me suis dit c'est cool, il a des jambes, il est dans le match. Et quand il s'est retrouvé tout seul derrière, c'est quoi, c'est dans la Rochefoucauld, je crois qu'il rattaque.
Ouais.
Je me suis dit putain, il est chaud et tout, mais ça revenait derrière, ça revenait, c'est revenu à 7-8 secondes un moment et tout. Enfin, vraiment, j'ai vibré avec Romain comme on a vibré avec lui en fait toutes ces années. Et cette deuxième place, elle est incroyable, parce que c'est pas qu'elle sort de nulle part non plus, mais on s'attendait plus peut-être à un tel résultat sur une aussi belle course pour Romain. Alors les conditions font que, c'est sûr que si t'as pas Pogacar et qu'il est en tête à ce moment-là, je pense que derrière ça court évidemment différemment. Mais moi j'ai vraiment vraiment fait voir le voir comme ça, le voir sourire de cette manière. Bon, la réaction de son fils c'était formidable. Il mérite, tu l'as dit, il mérite. Romain Bardet, il a une carrière incroyable. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'accessites pour ce talent.
Ouais.
Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que, même s'il va bientôt sur ses 34 ans, qu'il est beaucoup moins fort que Van Der Poel, que Pogacar, que Remco, et ben, il tente encore. Il a toujours ce panache qui fait plaisir. Alors, très français, hein, ouais, heureusement qu'il ne gagne pas beaucoup, mais ça nous fait plaisir. Et on espère qu'il y aura encore une belle victoire quand même. Après,
50e deuxième place dans sa carrière pour Romain Bardet, hein, qui a été notamment vice-champion du monde, sur l'Estrade aussi deuxième, enfin bref, pas mal d'accessis. Il a été déjà monté sur le podium de Liège-Bastogne-Liège à la troisième position il y a quelques années. Moi, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'il était entouré de Pogacar et Van Der Poel sur le podium, et c'était presque voilà, un petit peu bizarre pour lui. Il a dit je pourrais montrer la photo à mes enfants et tout, c'est incroyable. On a l'impression que c'était un mec qui devait pas du tout être là. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas dans cette cour. Il a quand même trusté le top, hein. On se rappelle quand même de ces deux podiums sur le Tour de France. Mais voilà, c'était quand même assez bizarre et particulier. Et ça récompense une carrière où il n'a jamais rien lâché. D'ailleurs, juste en parler, James, toi qui a un regard un petit peu plus neutre, un podium sur le Giro, est-ce que c'est possible pour lui? Parce qu'on le voit bien quand même sur le Tour des Alpes, il était plutôt pas mal. Là, on le voit lutter avec les meilleurs sur Liège-Bastogne-Liège. Ça en fait un outsider pour le Giro, même si par le passé, on a eu quelques complications avec lui.
Ne parle pas.
Ouais.
Oui, c'est possible. Hein. Derrière Poggi, la place de 2 et 3, ça me semble très très ouvert. Donc, vu ce qu'il a montré... sa cote est en hausse, donc très bien. Moi, je rejoins tout ce qui est dit, mais quelque part, il y a en moi une part de tristesse d'être à ce point-là, de se réjouir d'une deuxième place, d'accepter tellement d'être dominé par un extraterrestre venu d'une autre planète. Ça me désole un petit peu. On célèbre cette deuxième place vraiment comme une victoire. Ça me gêne un tout petit peu. Après, pour lui, évidemment, il y a aussi paramètre suivant. C'était peut-être son dernier Liège-Bastogne-Liège, parce que on ne sait pas s'il va continuer la saison prochaine. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'émotion. Ça ressemblait vraiment aussi un petit peu à cela, mais je comprends tout ce qui est dit. Et puis, alors, il est pas au même niveau que Thibaut Pinot au niveau de l'aura auprès du public français, mais c'est quand même tout doucement un bon vieux serviteur du cyclisme français qui va aussi partir derrière Pinot. Alors c'est vrai que dans les émotions qu'il peut véhiculer, bah c'est peut-être maintenant le coureur qui, après Pinot, peut véhiculer autant d'émotions maintenant auprès du public français. C'est vrai que voir deuxième d'un monument, bah je comprends que ça a beaucoup touché le public français.
Ouais, il a une belle cote encore, Romain Bardet, dans les cœurs français. Et d'ailleurs, tu parles de Thibaut Pinot. Il faut savoir que grâce à cette deuxième place, Thibaut Pinot n'est plus numéro un français. Hein. L'UCI, bravo. Romain Bardet lui est passé devant. Il a tenu 4 mois. Thibaut Pinot qui a été fait troisième d'un trail, mais ça compte pas pour les points UCI.
C'est tout un symbole, finalement.
Ouais, c'est vrai que c'est une passation de, on va dire, pas de pouvoir, mais de popularité, on va dire, pour Romain Bardet. Regardez, juste très rapidement, donc sur ce Liège-Bastogne-Liège, on a eu aussi une belle bataille. Hein. On a vu Ben Hilly, on a vu Richard Carapaz, on a vu Egan Bernal aussi, encore une fois, qui revient très très bien cette année. Cosnefroy, Romain Grégoire, voilà. Donc c'est une transition toute douce pour donc passer aux satisfactions et déceptions de l'ensemble de ces Ardennaises. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu? J'ai mis quelques noms et tout, mais j'attends de vous donner la parole pour compléter. James, les satisfactions de ces Ardennaises. Autre que l'on a parlé, bien sûr, si.
Ouais, c'est pas facile, ça. Autre.
Bah moi, j'en ai à donner Van Gils pour moi, même si on a parlé un tout petit peu ça. Ah ouais,
on en a parlé effectivement.
Je te donne des Belges.
En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, même si ça n'a pas payé, c'est le fait de voir Richard Carapaz essayer de suivre Poggi. C'est le seul qui a essayé, voilà.
Non. Ils sont deux. Il y a Skelmoseux qui a dit j'ai essayé, je me suis brûlé les ailes. Et après derrière, il faut faire partie des déceptions d'ailleurs.
Lui, s'est brûlé la langue. C'est différent. Il s'est cramé là. Il y a 3 jours avant, il a pris un coup de froid. Donc, ouais. Il n'avait peut-être plus les neurones tout à fait au bon endroit. Mais non, Carapaz, c'est chouette. Au moins un qui s'est pas avoué vaincu. Bon, certainement, il a payé la note derrière, mais. Ben voilà, je lui ai dit, allez, vas-y, j'étais derrière lui, hein. Moi je me dis, vas-y, prends sa roue, accroche-toi. J'étais équatorien l'espace d'un instant, quoi, parce que moi, ça me désole de voir Poggi partir tout seul, et finalement, il n'y avait rien à faire. Et alors, les satisfactions, je mettrais surtout, je ne sais pas si on allait en parler, mais quand même l'édition féminine de Liège-Bastogne-Liège.
C'est juste après, en effet.
Qui a été fantastique.
On en parle juste après. Je te donne aussi des petits Belges. Maury Van Sevenant aussi, qui a fait des grosses Ardennaises, qui était en vue, même sur Liège-Bastogne-Liège. Il a fait un top 10 aussi, je crois, encore.
C'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Le fait que Remco et Landa ne soient pas là, ça a redonné de l'espace à Maury Van Sevenant, qui en a profité parfaitement. Tant mieux pour lui.
Tu lui diras quand même d'arrêter de trop hocher la tête quand il fait des attaques ou quand il sprint. Hein. C'est terrible quand même de le voir. L'énergie qu'il doit perdre à chaque fois, mais on doit lui dire tous les jours, le pauvre. Mais c'est toujours impressionnant de voir ces images. Bon, Rémi, est-ce que tu en as noté quelques-unes? J'en ai, hein, bien sûr, dans ma besace, mais est-ce que tu en as noté?
Je vais pas être très par rapport à ce qu'on a dit. Il y a quand même beaucoup de redites. Hein. C'est vrai que globalement, le résultat des Français est pas mauvais. Hein. Ouais. Il n'y aura pas la victoire de Benoît Cosnefroy sur la Brabançonne. Bon, même si c'est un peu à mi-chemin entre une Flandrienne et une Ardennaise, mais ça marque quand même le début de la période. On a trusté les top 10, on a trusté les podiums, ça reste quand même très positif. Il n'y a pas une très grosse victoire, mais il y a quand même des bonnes satisfactions. L'OVNI Stephen Williams, pour moi, c'est une vraie satisfaction. C'est bien de voir que sur une course très ouverte, il a réussi à prendre, il a pris sa chance.
Et un peu comme Riley Sheehan sur Paris-Tour l'année dernière. En fait, ils font que des surprises d'Israël sur des courses un peu de prestigieuses.
C'est ça, ouais. Exactement. Ils arrivent à avoir. Maintenant, ils ont ces mecs qui arrivent à gagner des belles courses comme ça. Alors quand c'est très ouvert, oui, mais il faut savoir les gagner quand même.
Et puis, mais le grand artisan pour Israël, c'est quand même. Alors là, je vais ramener un petit peu le débat sur nous Belges, chez Eric Verbrugge. Hein. Depuis que lui est devenu manager sportif de l'équipe, eh bien, il a quand même mis de l'ordre dans le noyau. C'est pas lui, je précise, qui a recruté Chris Froome. Hein. Cette connerie-là avait été faite bien avant son arrivée. D'ailleurs, ils savent plus quoi.
Il commence à épurer tout ça. Hein, ouais, tous ces recrutements.
Exactement. Donc, derrière tout ça, il y a un cerveau, et ce cerveau, c'est Rick Verbeek.
Et surtout, voilà. Il faut voir aussi un petit peu en dessous, c'est qu'il était un Blackmore qui fait partie de l'équipe de développement de l'Israël, qui fait partie des coureurs qui performent déjà, même chez les grands, quand ils font un passage. Donc, il y a toute une construction autour de ce projet, je trouve, qui est intéressant. Au départ, on pensait que c'était la maison de retraite un peu prestigieuse, et c'est en train de faire une douce transition avec des coureurs comme ça. Qui, parce que là, par exemple, il y avait Fuglsang... c'était
oui, du travail, hein, il y a ouais. encore du travail, hein, il faut encore épurer le noyau, mais c'est en train de prendre forme, ça progresse et il y a quand même 2 victoires en World Tour pour une pro team, hein, faut rappeler qu'Israël est en pro team, donc c'est quand même un bilan super pour cette formation, hein. Ouais, déjà 15 victoires cette saison, hein, il y a aussi une étape autour de Catalogne, c'est très 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 costaud comme saison chez Israël.
Et d'ailleurs, très costaud aussi, moi j'avais dans les satisfactions en décathlon à G2R sur l'ensemble des Ardennaises, hein, entre Cosnefroy et la Pera il est pas loin de basculer avec les meilleurs sur l'Amstel pour aller jouer la gagne. Depuis le début de l'année, c'est juste la grosse satisfaction, c'est incroyable ce qui est en train de se produire. Il fallait avoir des Van Rysel pour aller un peu mieux. Donc voilà, donc c'était dans les satisfactions, j'avais noté Benoît aussi pour les Belges. Hirschi quand il n'y a pas Pogacar, évidemment, toujours présent quand... notamment sur l'Amstel. Voilà pour ça. Dans les déceptions, donc j'ai dit Skelmoseux, moi, ma grosse déception, je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais pour moi, c'est le gros flop, malheureusement. Il a pas pesé sur la course, il a pris froid à la flèche, et après, derrière, c'était compliqué sur Liège. C'était l'un des coureurs, même le favori de la flèche, mais bon, quoi, James, t'es pas d'accord?
Si, mais en fait, le gars, il a juste pas quoi. Il a complètement sous-estimé ce qui lui est arrivé, et il s'en est pas remis à la flèche qui lui est arrivée. C'est un traumatisme ouais. pour le corps, je sais pas, enfin, je comprends pas. C'est complètement fou ce qui lui est arrivé. Et le mec, 3 jours plus tard, ouais, je me suis dans la meilleure forme de ma vie. Mais non, tu dois pas dire ça.
Ouais, c'était compliqué pour le Danois. Alors j'ai noté aussi Benili, parce qu'on en a parlé un petit peu. Je mets dans les déceptions parce qu'il était toujours actif, mais il a jamais été récompensé. Et je pense qu'il y a peut-être un petit problème. Il faudra le régler au niveau de la course parce qu'il fait beaucoup d'efforts en amont et finalement il est jamais vraiment récompensé. J'ai noté Tuns aussi un peu moins bien. Je sais pas si tu avais autre chose à dire, Rémi, James, sur les déceptions avant qu'on passe aux féminines.
Il y a tout le bloc Bora. Hein,
oui, bah après, ceux-là, pour moi, c'est un peu des déceptions, c'est les fantômes. Hein, ouais.
Ah. Ils étaient présents, t'es sûr?
Ouais, il y avait Hindley, notamment sur Liège, il faut le rappeler. Vlasov aussi, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. C'était très ouvert, mais finalement, on a quand même vu toujours les mêmes acteurs hein, sur ces 3 courses. Hein. On a vu globalement les décathlons, on a vu Benoît Cosnefroy, la Pera. Les Groupama, même si bon, c'est assez mitigé, c'était quand même du Paché, du Madouas, évidemment les Pogacar, les Williams qui ont gagné. Mais vrai, globalement, on a eu à peu près les mêmes acteurs sur tout le long, Tom Pidcock, bien sûr.
Ouais.
Et puis après, les autres équipes, elles n'ont pas existé.
Ouais, ça c'est clair. Une autre équipe qui a un peu moins existé que d'habitude, la transition est faite pour les féminines, c'est la SD Works. Donc avec aucune victoire sur les Ardennaises. Alors j'ai pas eu le temps de calculer, hein, si jamais vous avez le chiffre. Hein. Ça fait combien de temps qu'aucune de SD Works ne s'impose sur l'une des 3 Ardennaises? Je pense qu'il faut remonter à très très loin. Il faudra vérifier. Ouais.
L'équipe n'existait pas peut-être.
Ouais, peut-être à ce moment-là. Donc je rappelle avec la victoire de Marianne Vos sur l'Amstel, Nivadoma donc sur la Flèche et donc Grace Brown sur qui vient de se terminer. Déjà, sur l'Amstel, on rigole à quelle heure, James, sur le Rina Vibus, parce qu'on a beaucoup pris, nous, sur Julien Lafilippe, sur un feu Liège-Bastogne-Liège. Le Rina Vibus, c'est terrible, quoi, d'avoir cette victoire vraiment au bout des pédales et de célébrer un peu trop tôt.
C'est catastrophique pour elle, ouais. Je veux dire, bon, c'est la seule course World Tour néerlandaise chez elle. Et elle fait ça, alors que ça aurait pu être la consécration ultime de ses progrès sur les classiques. On l'a toujours connue en tant que sprinteuse la plus forte, la plus rapide du monde. Et là, depuis quand même 2 saisons, depuis qu'elle est arrivée chez SD Works, elle est en progression continue sur les classiques. Et là, justement, ça aurait été la consécration. Et voilà, après derrière, bah, elle fait cette boulette et...
Ouais.
C'est pas l'eau, quoi. Et les larmes s'en suivent. Bah, moi, je rigolais pas. Moi, j'étais triste pour elle.
Oui.
Plus qu'autre chose. J'ai, ouais, j'étais, ouais. un peu de compassion plus qu'autre chose. Parce que Voss, en fait, elle a déjà gagné 450 courses dans sa carrière, elle n'en a pas besoin. Donc, c'est triste, mais c'est un peu aussi le symbole que ça, voilà, chez SD Works, cette saison, ça veut un peu moins bien. Ça, le collectif est beaucoup moins soudé. Marlène Rösser, qui est à l'infirmerie, on n'en parle pas beaucoup, mais ça joue énormément.
Ouais, non, mais c'est vraiment une impression qu'il y a un petit grain de sable dans le rouage, parce que même Demi Vollering, elle est un peu moins souveraine, il ne manque pas grand-chose, hein, que ça soit sur Liège ou la Flèche pour basculer dans le bon côté, mais c'est en fait, cette fois-ci, la pièce, elle est pas du bon côté. Hein. Rémi, je sais pas ce que tu en penses, mais il manque la confiance qu'elles avaient avant, qui était absolue, évidemment.
Ben, c'est comme le dit James, c'est bien la preuve qu'il y a un problème au sein de l'effectif. T'es pas aussi soudé. On savait, hein, cette espèce de d'immense équipe all-star avec des égos surdimensionnés. Et c'est logique, hein. On est dans le sport pro, etc. Il y a un moment où ça va forcément éclater et bah, t'as toujours, c'est des petits trucs qui viennent par-ci par-là. La blessure de Marlène Rösser, comme le dit James. C'est un maillon essentiel, Marlène Rösser, dans cette équipe SD Works. Ouais. Évidemment, c'est Kopecky et Vollering qui ont toute la lumière, et Vibus, bien sûr. Mais Marlène Rösser fait partie de ces éléments indispensables pour le fonctionnement d'une équipe. Elle n'est pas là. Un petit peu de suffisance aussi. Tu as tout gagné depuis 5-6 ans. J'exagère évidemment. Mais du coup, tu te dis que c'est bon, ça va le faire. Et ça, c'est le cas avec Vibus. Puis, il y a aussi... Au-delà de la suffisance, il y a aussi certainement, et ça c'est très difficile dans le sport, c'est de se remettre en question et de se remettre à bosser quand t'as absolument tout gagné. Vollering, elle a gagné le Tour l'année dernière, alors c'est pas une fin en soi, et je suis persuadé qu'elle le pense aussi, mais voilà, tu es peut-être un petit peu moins concentré sur les autres courses, et elle est peut-être à fond sur le Tour 2024 et pas forcément sur les classiques. Il y a aussi l'avenir pro de Demi Vollering, ça peut jouer dans la tête quand tu es en train de discuter avec d'autres équipes, que tu sais pas exactement où tu iras l'année prochaine, même si elle trouvera un contrat. C'est pas le stress d'avoir un contrat comme peuvent l'avoir certains ou certaines qui peuvent se dire on va pas avoir de solution, mais t'es pas forcément à 100% sur le sportif, donc du coup évidemment derrière, étant donné qu'il y a un pléthore de talents dans le peloton, t'es pas forcément la meilleure et t'es battue.
Ouais, Vollering qui selon certaines rumeurs se dirigerait vers FDJ, encore une fois on a eu d'autres avant, donc on reste vraiment dans du grand grand conditionnel. Il y a aussi à l'intérieur il y a Kopecky qui vient d'annoncer qu'elle ne sera pas sur le Tour de France, on le savait, hein, mais va se concentrer sur les JO et tout, donc on a l'impression que il y a plus vraiment une entente cordiale. James, tu voulais rajouter quelque chose par-dessus?
Je regardais un petit peu pendant que Rémi causait. En 2020, il n'y avait pas de SD Works sur le podium de Liège, mais là, c'est encore le cas. Hein. Ce que j'avais envie de dire, c'est que les autres se renforcent aussi, puisque SD Works n'est plus tout à fait seul. Hein. Lidl Trek, on le voit, est en net progrès. Et puis, une formation comme FDJ Suez aussi, qui arrive à se réinventer et qui ne s'écroule pas, malgré la blessure de Cécilie aux troupes, je ne sais pas dans quel ordre de dire, mais peu importe. Et puis, il faut aussi parler de l'erreur tactique qui a été réalisée par l'ensemble du peloton. Comment est-ce possible de laisser autant de champs à cet échappé On a clairement sous-estimé les adversaires. Et là, ça rejoint un peu la suffisance aussi, mais de l'ensemble de la concurrence, à force d'avoir ce match entre Longo Borghini, Niemadoma et Vollering. On en a complètement oublié que Grace Bond savait rouler à vélo. Et finalement, quand on laisse une fille qui a fait déjà deux fois deuxième de Liège-Bastogne-Liège, à un moment donné, il ne faut pas être surpris non plus du résultat. En plus, Grace Bond, elle a une petite pointe de vitesse. Voilà. Ouais. C'est une leçon pour tout le monde.
Elles sont fait avoir à ce moment-là la FDJ, hein, donc qui a fait aussi un top 5 avec Vita Music sur la Flèche Wallonne, qui aime beaucoup cette course. Non, mais Grace Brown aussi, ça vient conclure tout le travail effectué par la FDJ Suez. Ouais, c'est clair que Grace Brown, elle a bien joué le sprint. Vollering part un peu tard. De l'autre côté, je crois que c'est Longo Borghini qui part un peu tôt. Enfin, vraiment, on a un peu sous-estimé les kilomètres dans les jambes de Grace Brown, qui est quand même une bonne machine à rouler. Donc,
c'est une guerrière.
Ouais,
c'est une guerrière.
ça la dérange pas du tout. Donc ouais, donc toi t'as apprécié ce Liège-Bastogne-Liège. C'est vrai que bah il y avait du suspense jusqu'au bout, il y avait une échappée, c'est revenu. Franchement c'est vrai que c'était sympathique.
Ben oui, une vraie pub, c'était beaucoup plus intéressant à suivre, selon moi, que l'édition masculine. Quand il y a une vraie bataille pour la victoire, ça donne un spectacle qui est vraiment plaisant à regarder. C'est bien, il suffit que la SD-Works soit un peu moins fort, que les autres arrivent à emboîter le pas, ça donne une répartition des forces un peu différente, et du coup une bataille digne de ce nom.
Bon, on aura fait le tour donc de ces Ardennaises pour les garçons et pour les filles. On va gentiment faire un petit on attaque, on attaque pas. Et après, il y aura le quiz directement puisqu'il n'y a pas de deuxième partie aujourd'hui. Donc, on va parler de ce qui se passait ailleurs dans le cyclisme.
Attaque de Pierre Rolland, encore une fois.
Personne ne réagit.
Alors, j'ai mis pas mal de choses. Donc, Pecky passe sur le Tour de France et Vollering à la FDJ. On en a parlé juste rapidement. J'ai Cofidis qui prolonge donc son... son sponsoring, donc avec la rumeur transfert à la Philippe autour des équipes françaises. On en parle chez Cofidis, on en parle chez Total Energy. Peut-être que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Il y a le Tour de Turquie qui est en ce moment. Alors, je vais pas vous mentir. J'espère que vous n'avez pas vous appesantir là-dessus parce que c'est pas fou pour l'instant. Le Tour des Alpes qui s'est terminé donc dernièrement avec là aussi des Français qui ont brillé. Et puis Del Toro qui a prolongé jusqu'en 2029. Je voulais te donner Isaac Del Toro avec Emirates. Bon, ils ont l'habitude de faire des contrats jusque le siècle prochain. Donc voilà. Vous voulez Rémi, tiens, tu te donnes la parole. Tu as une chose auquel tu veux réagir?
Moi, je voulais réagir au Tour de Turquie, mais t'as pas envie. Alors,
qu'est-ce que tu vas me dire sur le Tour de Turquie?
Del Toro.
Tu vas dire bravo Canter, c'est ça que tu veux me dire? C'est bravo la victoire. Et devant Henri Hulig et Tobias Andresen, c'est ça que tu veux me dire?
Moi, j'ai jamais vu un plateau de sprint aussi magnifique, mais bon.
T'as quelque chose contre ces coureurs?
Ah non, pas du tout. C'est juste que c'est pas forcément la course que je regarderai en premier. Et sachant qu'il y a eu un Chinois dans le top 10 aujourd'hui.
Ça fait dire sport, hein, quand même.
Non, c'est bah, on... Bref, on... quand on vient non, goûter non, aux Ardennaises.
Sérieusement. Ouais. Oui, c'est pas la même chose, hein. Faut se mouiller la nuque, c'est sûr. Non, moi, je voulais réagir évidemment très rapidement sur Del Toro. C'est logique de le voir prolonger chez UAE à long terme, de toute façon, parce que, comme tu le dis, c'est habituel qu'il fasse signer des contrats à longue durée. Il est le futur de cette équipe. Il est même, j'ai envie de dire, il commence petit à petit à être le présent. Évidemment, aller tranquillement, hein, mais ça, c'est très logique. Et puis,
On me dit dans le chat que tu voulais réagir sur la victoire de Morgado sur le Giro de la Romagna. On me dit ça dans le chat, évidemment, bien sûr. Je l'ai pas
évidemment,
noté. On a déjà Théo qui nous parle de Morgado, qui est devenu portugais. Donc c'est bon, au bout d'un moment, ça va. Non, et tu voulais dire sur Cofidis?
Oui, sur Cofidis. Alors déjà, premièrement, c'est très bien de voir que le sponsor reste. Hein. Cofidis, ça fait des années que c'est dans le peloton. Et c'est toujours très intéressant de voir que ça continue d'exister. Et que ça se poursuit, c'est évidemment bien pour tout le staff, les coureurs, tout l'encadrement, évidemment, que la structure reste. Ensuite, la rumeur à la Philippe, il va falloir de toute façon à un moment, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, c'est pas du tout là-dessus que je suis, c'est qu'il y a un moment, il va en effet falloir recruter en conséquence pour avoir à nouveau des résultats dignes de ce nom. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu des victoires sur le Tour, évidemment, c'était magnifique, mais on espère quand même, on veut voir une équipe Cofidis qui joue un petit peu plus que quelques victoires par-ci par-là, et surtout en comptant vraiment sur uniquement le talent de ses coureurs, puisque la victoire de Victor Laffey et la victoire d'Isaac Guéret l'année dernière, c'est parce que les mecs sont bons et ils se la font tout seuls. Donc... Il va falloir reconstruire quelque chose et j'espère que c'est le début d'un nouveau cycle en fait.
Ouais, parce que
à la Philippe ou pas à la Philippe encore une fois.
Ouais, parce que en fait moi j'ai sur le réseau X, hein, on en a parlé parce que c'est bien de prolonger. Je trouve juste pas où est la stratégie maintenant de la Cofidis qui reste quand même une grosse équipe. On rappelle quand même qu'elle est en World Tour. L'année prochaine il n'y a plus que 13 coureurs sous contrat pour l'instant. Brian Cocard donc il y a pas qui est le seul on va dire star, hein, plus d'Isaac Guerre, plus de Guillaume Martin. Bon, il y aura des négociations etc. Mais ce sont aussi des coureurs un peu vieillissants qui peuvent pas t'apporter de grosses victoires. Je ne sais pas où va la stratégie de Cofidis. C'est ça en fait qui m'inquiète un tout petit peu. Je sais pas ce que t'en penses, James, mais voilà, j'ai un petit peu peur pour cette équipe qui en plus depuis le début de l'année est en très très grande difficulté.
ils n'avaient pas si mal débuté que cela. Mais c'est sûr que la suite a été plus compliquée. J'ai eu une discussion avec Cédric Vasseur en début de saison qui m'a expliqué que le projet pour cette année, c'est d'avoir recruté des gars vraiment qui allaient se mettre au service des têtes d'affiche, à savoir, comme tu les as cités, Isa Guiré, Guillaume Martin, Axel Zinglet et Brian Cocard. Ça, ce sont tes quatre têtes d'affiche. Et on a été greffés à cela, vraiment des gars dont on est sûr qu'ils vont pas avoir trop d'ambition personnelle, vraiment des coéquipiers. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que tes quatre têtes d'affiche, aussi sympathiques soient-elles,
mais c'est ça, oui.
Ce ne sont pas quatre têtes d'affiche qui sont en mesure d'aller chercher des toutes grandes victoires. Et donc, du coup, si tes quatre têtes d'affiche eh bien, ont un problème, bah, tu es un petit peu, entre guillemets, dans la voilà. Hein ? Parce que Guillaume Martin a eu des soucis avec le Covid. Et donc, du coup, ça pose un sérieux problème. En fait, il n'y a pas un noyau suffisamment assez large pour obtenir des résultats, puisque le recrutement qui a été fait n'est pas assez qualitatif pour dire d'avoir des résultats, et même sur des classes 1, ils ont du mal. Parce que c'est ça le problème. Quand il y a le triplé de course,
dans le Jura,
exactement. C'est là que moi ça m'interpelle. Moi j'attends jamais Cofidis sur hier par exemple, Cofidis, Liège-Bastogne-Liège. Bon, bah, oui. Si un top 10, c'est déjà très bien, 10 sur 10. Mais ne pas être en mesure de gagner une classe 1 et que FDJ fasse le triplé, là je trouve que c'est pas normal. C'est là qu'ils doivent scorer parce que, mine de rien, le maintien dans le World Tour,
il est sportif.
Ben, ça va tout doucement être un sujet tendu. En plus, la pression de ne pas gagner, ben ça joue hein, dans les têtes, et forcément on compte sur pour qui, sur qui, ben, Zinglet et Cocard pour faire sauter le verrou. Hein, soyons clairs, hein, ça viendra d'un de ces deux-là, peut-être Frétin sur une classe 1, mais il est temps vraiment que Cofidis commence à gagner, parce qu'en termes de points, ça devient tendu, et comme tu le dis si bien, il n'y a que 13 coureurs sous contrat la saison prochaine. Est-ce que Zinglet va rester ? Est-ce que Martin va rester ? Est-ce que Isa Guiré va rester ? Qu'est-ce qui te reste si ces trois-là s'en vont ? Cocard, pour assurer ton maintien. Cocard, c'est un coureur formidable qui n'a certainement pas exploité le potentiel qu'il avait. Mais... en attendant,
ouais.
Ça revient derrière. Hein.
Mais moi, j'ai...
L'an dernier, à pareille époque, tu avais 10 victoires déjà.
Ouais, bon, après, on peut faire des résultats sur les victoires, mais en fait, il y a plusieurs choses. Moi, je vais être un tout petit peu méchant, je suis désolé là-dessus. Déjà, Yon Izaguirre.
Toi, t'es quelqu'un de pas gentil.
Ouais, il a 35 ans. Miser sur Yon Izaguirre maintenant, moi, je le vois plus en vétéran, entourer une équipe, que d'être un leader. 35 ans, ça commence à être compliqué. Il faut essayer de passer à autre chose. Guillaume Martin. Prendre des coureurs pour entourer Guillaume Martin, et je suis désolé, mais Guillaume Martin n'est pas un grand leader d'une équipe World Tour. Malheureusement, il va dans toute autre équipe du World Tour. Il n'est pas leader, malheureusement, Guillaume Martin, parce que voilà, il y a d'autres coureurs qui sont capables de performer autrement. Je lui souhaite de me faire mentir, mais c'est ça le problème, c'est qu'on veut entourer des leaders qui ne sont pas vraiment des leaders. Brian Cocard, ça fait un petit moment qu'il tourne autour de la victoire, il n'aura pas de... On le sait qu'il n'aura plus de succès probant, qu'il n'aura pas cherché une victoire sur le Tour de France, ou alors vraiment c'est il le fait d'une autre manière qu'un sprint, un emballage massif. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est que on veut certes miser, comme tu le dis, sur des leaders, mais les leaders, il faut qu'ils soient un cran dessus si jamais tu veux être une équipe en World Tour. Mais je dis bravo quand même à Cofidis de rester dans le peloton, parce qu'on a besoin de ce genre de structure pour rapport à des équipes françaises. Ça, c'est autre chose. Moi, je parlais du point de vue sportif, d'un point de vue marketing ou financier. Je suis très content de voir la Cofidis, et je ne jette la pierre sur personne, etc. Notamment Cédric Vasseur que je ne connais pas personnellement, contrairement à James, mais voilà, je m'interrogeais juste, voilà ce que je voulais dire. Dernier petit truc sur Alaphilippe, il y a Jean-René Bernodeau qui dit oui, on a commencé à discuter avec lui et tout, etc. Il y en a qui me disent non, faut surtout pas les enterrer, laissons faire le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va voir, et Julien Alaphilippe est assez intelligent pour savoir où il veut aller dans les prochains mois, dans les prochaines années. Est-ce que maintenant vous êtes chaud Parce qu'on a un quiz. Je vais préparer un petit quiz.
Oui, plutôt.
Oui, bon, bah alors, c'est parti.
C'est toujours le moment où je redoute.
Mais bon, non, tout va bien. Enfin, peut-être pas. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
J'espère que vous avez bien regardé les Ardennaises, parce qu'on va parler du Tour de Romandie dans ce quiz. Alors que James a baissé... Alors, je suis obligé de rechanger... James, t'as complètement baissé ta caméra, on va plus que...
Oui, j'ai allongé, attendez, j'ai allongé...
Tu t'es mis en mode quiz, Donc, ça sera sur le Tour de Romandie dans sa globalité. Laissez-moi juste retourner sur la page du Tour de Romandie pour vérifier si j'avais demandé...
Voilà. Son quiz.
Alors, non, c'est pas le quiz, c'est juste pour vérifier si jamais vous me demandez un petit truc. Bien sûr que le chat peut jouer aujourd'hui, ce sont des questions, tout le monde peut jouer. Alors, 10 questions, je vais noter les points évidemment à côté de moi et vous allez pouvoir...
Ça va parler portugais, je le sens bien là, je sens qu'on va parler de Bricochta.
Eh bien, figure-toi qu'on va parler de toutes les nationalités. Alors, d'ailleurs, parlons de nationalité, quelle est la nationalité du premier vainqueur du Tour de Romandie, s'il vous plaît ?
Un Suisse.
Pas du tout.
J'ai essayé.
Belge.
Il est belge. Oh. Voilà, donc 1947, un point pour Rémi avec le Belge Désiré Ketteler. Voilà donc pour Rémi qui
jamais
marque.
Son nom.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment, 1947, belle année. Vrai ou faux ? Un Belge est déjà monté sur le podium du Tour de Romandie depuis les années 2000, quoi. Et si oui, qui ?
Non.
Non ? C'est une bonne réponse,
non.
James. Il n'y en a eu aucun.
Non. On est trop mauvais.
Et alors, les Français, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont montés sur le podium du Tour de Romandie ? Oui. Et qui, si tu l'as ?
Pinot.
Oh, bonne réponse, Pinot en 2016. Ça fait 2-1.
Ah, ouais, j'aurais dit 2017.
Ok, c'était en 2016 pour Thibaut Pinot, la type qu'il a trouvé juste après le match. 2-1 donc pour Rémi, enfin 2 pour Rémi, 1 pour James, 0 pour le chat. On reste chez les Français. Quel est le dernier vainqueur français du Tour de Romandie ? Alors, si je vous le donne, c'est quand même quelqu'un de connu. Mine de rien. Indice.
Jalabert ?
C'était tout simplement Jalabert en 1999. Bravo, James.
Nicolas ou Laurent ?
je crois que c'est Laurent. J'ai pas noté le prénom, mais faut regarder en
1994.
Je vois pas Nicolas Jalabert à gagner le Tour de Romandie. Et on a donné Jaja, Samich. Désolé, avec le décalage, t'es juste après, mais vous.
Mais je donne mes points au chat, moi.
Non. Ils n'en ont pas besoin. C'est qu'il n'y a pas Cactus aujourd'hui. Sinon, t'inquiète pas, ils n'en auraient pas besoin. On reste dans les nationalités un petit peu. Et quelle est la nationalité qui s'est imposée le plus depuis 2000 sur le Tour de Romandie ? Pas en termes d'étapes.
Ah, c'est la Grande-Bretagne.
C'est la Grande-Bretagne. Avec combien de victoires, tiens ?
J'en sais rien, mais il y a Froome qui a gagné, il y a Wiggins qui a gagné. Donc ça suffit.
Thomas, non ?
Eh bien, 5 victoires donc pour la Grande-Bretagne qui a le plus gagné sur le Tour de Romandie. Et d'ailleurs.
Et Yates l'a passé, non ?
T'as anticipé ma question. 5 victoires, mais 4 vainqueurs. Il me faut les citer tous d'un coup.
Froome, Wiggins, Yates et Thomas.
Bravo, James, qui va marquer les points. T'étais parti. Hein, et James, donc, qui a...
C'est une passe-dé, cette question.
J'y peux rien. C'était dans mes questions. Donc, 3-2 pour James. Le chat avait la bonne réponse sur les Britanniques avant. Qui a terminé deuxième derrière Yates, d'ailleurs, l'année dernière ? Je sais plus.
Jorgensen,
bonne réponse pour un ami Jorgensen, j'avais un indice, elle a remporté une grosse course par étapes cette saison. Jorgensen, ça égalise, gros niveau, hein. D'habitude, c'est pas comme ça.
Ah, c'est bizarre.
Huitième question. Il y a deux spécialistes pendant longtemps de cette épreuve dans les années 2000, 2000 à aujourd'hui, montés 4 fois sur le podium. Donc, quels sont les deux coureurs ?
Il y a Rui Costa déjà.
Rui Costa, c'est un point pour Rémi. Quel est l'autre coureur ?
Et Simon Spilak,
bravo. Alors là, vous êtes vraiment très fort. J'avais des indices.
J'étais sûr qu'il allait la mettre celle-là parce que Spilak, je l'associe toujours autour de Romandie. Donc j'étais prêt pour lui. J'attendais juste le moment.
Vous êtes toujours à égalité.
Il a gagné le Tour de Suisse aussi, non ?
Il a déjà gagné les deux.
Sachant que Romandie ne le gagne pas sur le terrain, puisque c'est Valverde qui est déclassé derrière en 2010. Après, il monte trois fois de suite sur le podium en 2013, 2014, 2015. Rui Costa, trois fois troisième de suite, 2012, 2013, 2015, et deuxième en 2019 derrière Primoz Roglic de mémoire. Neuvième question. Vous êtes égalité, les gars. On va passer au Tour de Romandie féminin. Deux vainqueurs. Merde. Qui a remporté le Tour de Romandie? Deux vainqueurs, il me faut l'autre, il y a un point chacun.
Rösser.
Rösser, ce n'est pas une bonne réponse. Mais par contre, elle est montée sur le podium. Il faut marquer, on peut marquer des points. Il y a deux points à donner là.
J'ai le droit encore de continuer s'il ne dit rien.
Oui, oui, vas-y, continue.
Vollering.
Vollering en 2023, c'est la tenante du titre. C'est une bonne réponse. James, il repasse devant. Il me faut la deuxième. En 2022, qui a remporté? Alors, c'est une équipe qui ne fait pas partie. Une coureuse qui ne fait pas partie. C'est pas Van der Breggen dans le chat. C'est donc une coureuse qui ne fait pas partie des top équipes. Mais qui a performé, qui n'est pas européenne, voilà, pour vous donner.
Oula.
Ah oui, qui n'est pas européenne, qui commence à être âgée maintenant, mais qui est plutôt du continent africain.
Moulman Pazio.
Ashley Moulman Pazio, 2022, vous êtes égalité. Alors, c'est très simple. Nous avons une dixième question, tout ce jour-là dessus. Je suis désolé, le chat, vous pouvez donner la réponse, il n'y a que moi qui verra. Et, bravo. Quoi. Mais il y a donc cette dernière question. Qui a remporté le plus d'étapes sur le Tour de Romandie?
Oh merde.
De tout temps.
C'est Peter Sagan?
Peter Sagan, ce n'est pas bon. C'est de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, c'est pas très loin sur le Tour de Suisse, mais sur le Tour de Romandie, ce n'est pas lui. Ouais, on a dit Sagan aussi dans le chat.
Dans l'histoire, tu dis?
Dans l'histoire.
Dans l'histoire.
Alors, indice, je vais vous égrener les indices. C'est quelqu'un quand même qui est assez récent, c'est-à-dire qui a couru dans les années 2000, mais qui n'est plus en activité aujourd'hui. Voilà. C'est un sprinter. Nouvel indice.
Bah oui.
Un sprinter de renom. Un grand sprinter. C'est-à-dire que c'est pas Max Canter. Voilà. On a encore une petite cartouche pour lui. Petakis n'est pas bon.
Dans les années 2000.
Mais c'est pas loin. On a trouvé dans le chat. Bravo à Samich.
Ah.
Petakis, vous êtes pas loin.
Thibaut?
C'est tout simplement Mario Cipollini avec 12 victoires d'étape. Victoire donc de Rémy Dos Santos sur ce Tour de Romandie. Bravo, belle victoire au général. C'était franchement un super duel. Ça fait un petit moment que dans les questions, bah d'habitude c'est moi qui réponds aussi, qu'on n'a pas eu autant de belles réponses. Bravo et vous méritez, vous savez vous méritez quoi? De vous faire un petit pari pour finir.
Ah, c'est même pas vrai.
Bon, allez, on met les paris, c'est vrai.
Bon alors...
J'allais dire qu'on méritait de se faire un petit bisou. Mais...
Non, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est non, pas
je pensais qu'il allait dire, ouais, vous méritez tous les deux un point, en fait.
Non, pas du tout. Je veux que vous me donniez celui qui va remporter le Tour de Romandie 2024, sachant qu'il y a un prologue aujourd'hui, ouais, donc il va se dérouler.
C'est le moment de prendre la start list.
Alors, c'est très simple. Je vais vous aider en attendant pour parler. Piochez un des trois coureurs du Emirates, parce qu'après, le reste...
Ouais, Juan Ayuso. Hein.
Entre Ayuso... le tenant du titre, donc Adam Yates et Brandon McNulty, qui sont les trois favoris. Nous avons aussi Julien Philippe, qui ne fait pas partie des favoris, mais qui est là, qui est présent sur ce Tour de Romandie. Hein, j'en profite pour dire un petit peu qui sont les coureurs sur place. Yann Tratnik, qui fait son retour à la compétition. Vlasov est là, Jay Hindley aussi, on les a bien vus sur Liège, ils sont échauffés. Tao Gegenhardt, Gio Ciccone, voilà, Simon Yates, le frère 2, Damiano Caruso, je donne Egan Bernal aussi est là, Lenny Martinez, donc on a quand même une start list assez sympa, Henrik Maas surtout, ah, bah, Guillaume Martin, tiens, qui va pouvoir me faire mentir, Richard Carapaz, Lutsenko,
c'est marrant que Martin gagne.
Voilà. Bah oui, bah alors là, et ça me ferait grandement plaisir, là, n'oublions pas. Voilà, alors.
Là, il y a une belle start list. Moi, je vois bien un petit Vlasov, allez.
Un petit Vlasov remporté ce Tour de Romandie, pourquoi pas. D'accord, bah, une pièce sur Vlasov pour Rémi, James. Avant qu'on ne voit plus à l'écran.
Bernal a déclaré qu'il était à un niveau supérieur avant son accident, alors on va lui faire confiance. Allez, Egan Bernal.
Après, Romain Bardet dit aussi qu'il est à fond, hein, qu'il n'a jamais été aussi performant, et pourtant, il bute face au meilleur, donc ça ne veut rien dire. Ça. J'ai l'impression que c'était un autre
truc. Ouais, mais il n'y a pas de fantastique. Alors, ouais.
Egan Bernal, ok. Bah écoute, moi je vais dire à Juan Ayuso, hein, logiquement, vu qu'il va prendre 30 secondes à tout le monde sur le prologue, qui n'est pas très long, hein, mais il est tellement fort.
Ce serait chaud, là.
Attends, on voulait juste savoir combien. Alors, sur le prologue, il y a donc 2,28 km. Alors, pour prendre 30 secondes, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. J'ai un peu abusé. J'ai juste un tout petit peu abusé. Ouais, on me dit dans le chat qu'Ayuso, c'est un demi-fantastique. En fantastique, peut-être en devenir.
Pour en Ayuso, devenir,
qui est encore, encore très jeune. Eh bien, bah, c'est sur ces belles paroles.
Spilak, il n'est pas au départ.
Non, Spilak, alors figure-toi qu'il est forfait parce qu'il s'est fait mal à un doigt. Mais sinon, j'aurais mis sur le podium à coup sûr. Merci les gars d'avoir été avec nous pour cet épisode. Non, je dis avec nous parce que le chat aussi est toujours présent. Et puis on se retrouve plus tard pour débriefer ce Tour de Romandie. C'est surtout plus le Tour de Romandie pour parler du Giro parce que ça arrive très vite. Salut tout le monde.
Ouais, il va être serré le Giro.
Allez. Bah, alors si tu le dis, c'est que ça va être serré. Ouais, et Pogacar tout seul. Allez, salut à tous.
Ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.